les affaires créoles sur le chantier.
Si je vous dis Zerbas pays, ça vous parle? À La Réunion, les plantes médicinales sont largement utilisées pour se soigner. De nombreux Réunionnais les utilisent en tisane, sous forme de bain ou en cataplasme. Une pratique très répandue transmise de génération en génération, qui cohabite avec la médecine conventionnelle. Cela s'explique par les vagues coloniales migratoires successives qui ont fait venir sur l'île des travailleurs venus d'Afrique, d'Asie, de Chine, d'Inde et de Madagascar. Ils ont amené avec eux leurs traditions. Parmi elles, le fait de se soigner grâce à la nature. Et à La Réunion, il y a de quoi faire avec plus de 1500 variétés de plantes, dont 650 endémiques, et déjà 27 inscrites à la pharmacopée française. Le problème, c'est que le savoir détenu par les aînés se transmet de moins en moins à la jeune génération. Question d'époque, sans doute. De développement économique, aussi. Quand La Réunion devient département français en 1946, de nombreux habitants, pauvres, ont accès aux soins grâce à l'aide médicale gratuite. AMG. Certains se détournent petit à petit de leur tradition. Face à ce constat, l'association Aplamedum œuvre à la reconnaissance et la transmission de ces plantes médicinales. Claude Marodon, pharmacien à Saint-Denis, est le président de cette association. Il nous explique son combat. Quelle est la raison qui vous a amené à ouvrir cette association ?
Alors, cette association a été créée en 1999 pour répondre en fait à une demande de la part des utilisateurs de plantes médicinales de savoir si les plantes médicinales étaient efficaces, si elles étaient sécuritaires, c'est-à-dire qu'on pouvait les utiliser en toute quiétude, et s'il y avait possibilité, éventuellement, de faire une filière de plantes médicinales et aromatiques à La Réunion.
Et donc, à quoi sert l'Aplamedum ?
Alors, Aplamedum signifie association pour la promotion des plantes médicinales des DOM. Et au départ, il était un peu presque même interdit d'utiliser les plantes médicinales dans les départements d'outre-mer parce que la législation les avait oubliées, écartées d'un cadre d'utilisation légal. Donc, il a fallu, dans un premier temps, jusqu'en 2009, apparition de la définition officielle de la pharmacopée des Outre-mer dans la pharmacopée française, et bien avant cette date, donc 1999-2009, et bien il a fallu, presque pendant ces 10 ans, effectuer surtout un lobbying auprès des législations pour qu'on puisse obtenir ce changement dans la loi. En fait, c'est écrit dans le Code de la santé publique maintenant depuis 2009, et c'est un premier combat, c'était de pouvoir inscrire des plantes de l'Outre-mer à la pharmacopée française. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de les utiliser dans un cadre médico-légal. Dans les plantes médicinales, c'est qui garantit aux consommateurs que la plante est efficace et sécure, c'est l'inscription à la pharmacopée française.
Pourquoi les plantes médicinales sont-elles si utilisées à La Réunion ?
C'est parce que les îles de l'Outre-mer, et en particulier les Antilles et puis aussi La Réunion, on est isolé et éloigné de l'Hexagone. Et à ce titre, lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des maladies, des épidémies, eh ben, on revient très naturellement à un usage, j'allais dire, traditionnel des plantes, parce qu'il n'y a pas de traitement officiel. Donc à partir du moment où on a gardé cette tradition dans notre histoire, eh ben, il y a un usage plus important, plus intensif de plantes médicinales que dans les autres départements.
Pourquoi est-il important de sécuriser l'utilisation des plantes médicinales et aromatiques ?
Si on laisse le soin à des commerçants, dont l'intérêt quand même de vendre plus des produits de santé, l'intérêt de ces commerçants va être d'augmenter ou de vendre à tout prix les produits de santé. Or, dans certains cas, un produit de santé ne doit pas être vendu. Dans certains cas, on ne peut pas utiliser, par exemple chez la femme enceinte, on ne peut pas utiliser un produit lorsqu'on a un risque d'interaction avec d'autres médicaments, lorsqu'on risque d'interrompre son traitement et de perdre une chance de guérir. Lorsque c'est un bébé ou un enfant dont la maturité du foie et des reins n'est pas complète, n'est pas totale. Donc dans toutes ces raisons, et puis parce qu'il y a aussi l'obligation de conseil, il y a vente et conseil.
Quels peuvent être les bienfaits des plantes médicinales ? Pouvez-vous en citer quelques exemples.
Alors, c'est vrai que les bienfaits des plantes médicinales, c'est souvent une utilisation pour des maux dont le traitement classique, par exemple par des médicaments, peut être dangereux. Donc il peut y avoir là aussi des médications qu'il faut utiliser avec bon escient parce qu'il y a risque de surdosage, risque de toxicité chronique, etc. Donc souvent, je dis bien souvent, les plantes apportent cette espèce de confort d'utilisation, c'est-à-dire que lorsque la plante a une action douce, il y a moins d'effets secondaires. Mais ce n'est pas une règle. On peut avoir des plantes qui ont des effets secondaires ou même des plantes toxiques. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, les bienfaits des plantes médicinales, c'est des bienfaits parce qu'il n'y a pas d'équivalent doux sur les traitements habituels. Et quelques exemples, il y en a beaucoup. Je prends un exemple, par exemple, pour les problèmes digestifs. Plutôt que d'utiliser des anti-ulcéreux sur un long terme, on pourrait utiliser l'ambaville. Lorsqu'on a une mauvaise digestion, plutôt que d'utiliser un médicament chimique qui tue les bactéries ou un antibiotique, on pourrait utiliser de la diapana. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples comme cela où on arrive à traiter de façon plus douce les pathologies courantes. Maintenant, il ne faut pas donner aux plantes des pouvoirs qu'elles n'ont pas. Beaucoup de gens aimeraient bien faire croire que, par exemple, ça agit sur le cancer, ça agit sur des médications ou des pathologies lourdes. Or, souvent, ce n'est pas le cas.
Étant donné que certaines personnes ne croient pas aux bienfaits des plantes médicinales, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes pour les convaincre ?
C'est vrai que je ne cherche même pas à convaincre, parce qu'il y a plus de gens qui croient aux plantes que des gens qui n'en croient pas. Hein. Donc, c'est souvent par ignorance. Parce que la personne n'a pas étudié les plantes, parce que souvent ces personnes ont besoin d'un effet immédiat ou un effet fulgurant. Or, la plante souvent n'a pas cet effet immédiat, c'est une plante qui se prend sur la durée. Donc, on comprend tout à fait que pour certaines personnes, ils n'y croient pas. Et puis, il y a aussi une vraie raison de ne pas y croire. Parce que si la plante n'a pas été étudiée, si on ne connaît pas la composition ou le mode d'action de la plante, pourquoi elle agirait alors qu'on n'a aucune, franchement, vérification, validation ? Donc, la validation et la vérification qu'apporte l'inscription à la pharmacopée permet en effet de mieux utiliser les plantes.
Il y a 19 plantes réunionnaises qui sont inscrites à la pharmacopée française. Qu'est-ce que cela veut dire ?
C'est véritablement un peu comme si on avait une checklist et que cette checklist devait répondre à des critères bien déterminés. Alors, je donne les principaux, c'est l'expertise botanique, la composition chimique de la plante quand elle est connue, bien sûr les usages traditionnels ou et pharmaceutique, c'est-à-dire est-ce que déjà la plante a déjà été utilisée ou pas, et puis la durée d'utilisation de la plante qui nous permet d'avoir un recul nécessaire. Mais aussi, ça va être des études précliniques, des études en laboratoire sur la composition des plantes, sur les activités de certains organes de la plante, est-ce que la plante a fait l'objet de publications scientifiques pour son utilisation, est-ce que, alors après les études de laboratoire et les études précliniques, c'est-à-dire les études sur l'animal, et les études clinique, ça arrive quand on a des plantes qui ont des études cliniques, comme par exemple le jamblon. Et c'est-à-dire, études cliniques, c'est des études qui se sont faites sur l'homme pour pouvoir déterminer comment agit la plante, comment, quels sont les dosages qu'il faut utiliser et quand, à quel moment on doit s'arrêter. Mais pas que, il y a aussi toute la partie sécure, c'est-à-dire les interactions médicamenteuses, les toxicités, les interactions avec les autres plantes, la génotoxicité, c'est-à-dire la toxicité sur les gènes, la toxicité aiguë et chronique. Enfin, il y a beaucoup comme ça de déclinaisons. Et puis, on en arrive enfin à la fin à tout ça doit être écrit et vérifiable. Et la conclusion, bien sûr, qui indique si oui ou non la plante a une capacité à être inscrite à la pharmacopée.
Y a-t-il des plantes médicinales qui sont en voie de disparition à La Réunion ?
Absolument. C'est tout à fait vrai. On a ajouté d'ailleurs un critère pour cela récemment, c'est celui de la production agricole de la plante. Pour éviter le pillage et le braconnage, on préfère utiliser des plantes qui sont cultiver plutôt que d'utiliser des plantes qui sont cueillies en forêt. Il vaut mieux qu'elles soient en culture et que l'agriculteur, lui, il vérifie la qualité de la culture, mais aussi s'il peut assurer la pérennité de la culture. C'est-à-dire ne pas faire, par exemple, une saison puis s'arrêter. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va créer le besoin et les personnes iront chercher en forêt.
Pouvez-vous me dire quelques noms de plantes qui sont en voie de disparition à La Réunion?
Je vais premièrement citer le faham, puisque le faham est très demandé pour mettre dans des aromarangés. Donc pas forcément dans tisane. Moi, j'évite de faire la promotion d'une plante qui risque de disparaître et que nos enfants ne verront peut-être pas. Donc c'est pas le but. Le but, c'est quand même de faire en sorte que la nature reste respectée, que les plantes, bien évidemment, soient cultivées et utilisées à bon escient. Donc on n'est pas obligé d'utiliser du faham, d'autant plus que c'est pour des fièvres ou des migraines et qu'il y a d'autres plantes qui peuvent remplacer le faham, par exemple le tombé, par exemple la yapana, par exemple des plantes qui sont l'incafé, qui sont cultivées largement.
L'une de vos actions consiste à sensibiliser le public sur l'utilisation des plantes médicinales. Avez-vous le sentiment que cela se perd?
Il y a de plus en plus de gens qui sont avides d'apprendre sur les plantes et c'est vrai que les plantes font l'objet souvent méconnaissance d'utilisation d'une plante qu'on laisse tomber, quoi, hein. Mais c'est rare que les gens se désintéressent aux plantes. Au contraire, on a plutôt un engouement pour apprendre à les utiliser, pour continuer à travailler dans les plantes en question, hein.
Pour préserver ces savoirs traditionnels, vous organisez le concours Zerbas Pays. En quoi consiste-t-il?
C'est vraiment une idée de Roger Laverne. Et cette idée, c'est de demander aux élèves de faire des herbiers de plantes médicinales avec leur maîtresse ou leur maître et de demander par un petit questionnaire l'usage traditionnel des plantes à leurs grands-parents. Donc ça se déroule en général pendant les grandes vacances. Les enfants sont ravis parce qu'ils rencontrent les grands-parents. Il y a un échange entre les générations et ils amènent vers le mois de février-mars des herbiers qui sont des pures merveilles avec dessus la plante, reconnaissance et d'expertise botanique, c'est ce qu'on demande quand on doit utiliser une plante, la date de la récolte, le nom du récolteur, et surtout les questions qu'ils ont posées en termes d'utilisation traditionnelle, pour voir quel est l'état, la photographie, de l'état de l'utilisation des plantes pendant cette période-là.
Comment voyez-vous le futur des plantes médicinales à La Réunion?
Alors, je suis assez optimiste, parce que La Réunion est un vrai trésor en termes de pharmacopée. De plus en plus, on a besoin d'utiliser les plantes de façon sécuritaire et efficace. Une filière de production de plantes aromatiques et médicinales se met en place. Donc je vois l'avenir assez favorable aux plantes médicinales.
Mon île, tu as choisi la pureté et tu caches bien ta beauté au fond des cirques où bat ton cœur. Mon île, tu n'es pas l'île enchanteresse qu'on fait miroiter dans la presse aux riches des...
À La Réunion, les adeptes des plantes médicinales se tournent souvent vers des tisaneurs, figures très respectées sur l'île. Ils ont une parfaite connaissance des ressources offertes par la nature. Ce sont eux qui créent les tisanes et fixent les doses à respecter. Comment travaillent-ils? D'où viennent leurs savoirs et comment le transmettent-ils? François Thibert, tisaneur dans les Hauts de Saint-Paul, aussi présent sur les marchés forains, a répondu à nos questions. Où avez-vous appris ce métier?
L'apprentissage se fait de façon assez particulière parce que c'est quelque chose qui vient vers vous et que sans qu'on perçoive ou tombe dedans, et par le biais de maladies ou bien par le biais d'échanges entre anciens. Et mon cas était exceptionnel parce que moi, j'ai été amené à travailler la terre après un accident et après des maladies. Moi, j'ai venu à faire des tisanes. Mon enfance, j'ai été moins baigné dans les plantes, dans les tisanes, dans les Hauts-de-Saint-Paul, dans les années 60, 50, 60, où c'est qu'il y avait encore très peu de médecins et très peu de pharmacies, ou même pas du tout dans les Hauts. Et que là, c'était sans contourner la solution la plus appropriée, la plus propagée pour se soigner, les plantes, les tisanes, les herbes, les bois de forêt, tout ce qui s'ensuit. On a appris avec des anciens que l'était déjà de la famille. On a appris avec des anciens que moi j'ai rencontrés après sur mon parcours. Donc on n'arrête pas d'apprendre et on apprend tous les jours.
Certaines personnes ne croient pas trop aux bienfaits des plantes. En fait, ils préfèrent se soigner avec les médicaments. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
On ne peut pas obliger les gens à croire que les plantes sont bonnes ou pas bonnes, hein. Les gens ils vivent leur expérience de vie. À certains moments de la vie, il y a toujours un tournant où c'est qu'on est amené à... On est en face de soi-même, de résultats qu'on a à droite à gauche pour voir les effets. Donc ces personnes-là qui, soi-disant, ne croient pas aux plantes, peut-être que d'autres qui parlent, d'autres les dans notre raisonnement, d'autres les dans notre façon de fonctionner. On ne peut pas les obliger à croire, c'est pas possible. D'autres les à ne point avoir utilisé de plantes, n'a pas eu à avoir l'expérience de plantes. Bah, espérons qu'un jour d'autres n'aura l'expérience de plantes. Dans l'est, dans l'ouest, dans le nord, dans le sud, Nanmoun qui aime ça, Nanmoun qui se soigne avec les plantes, Nanmoun qui pratique ça. Donc c'est une tradition que n'aurait failli tomber avec l'AMG que l'a induit à nous un peu en erreur parce que la dirige à nous vers d'autres manières de soigner, nous voit bien aujourd'hui. Le dicton qui dit « chasser le naturel, il revient au galop » et de Moun à Réunion, 80% de la population réunionnaise l'est dans les tisanes.
Vous parlez de l'AMG, je ne connais pas du tout, vous pouvez m'expliquer c'est quoi ?
Pour la départementalisation, la Réunion qui souffrait de carences, de diverses carences au niveau santé, qu'elle avait vraiment de gros problèmes au niveau hygiène et tout ce qui s'ensuit, de Moun était assez malade des maladies que existent pour certains un peu plus aujourd'hui, mais de Moun était dans des conditions de vie, des conditions d'hygiène assez difficiles. Donc tout ça induisait des problèmes de santé, les enfants, les adultes et tout ça. Donc la départementalisation l'amène à nous vers un système d'aide médicale gratuite. AMG, aide médicale gratuite, c'était pendant longtemps la façon d'aller chez le médecin, c'est vous passez à la mairie, vous prenez un feuille rose. Et cette feuille-là, qu'elle était déposée à sécu après par le médecin pour se faire rembourser. Le Moun va partir directement vers gratuite, l'a abandonné toute cette tradition-là, presque. Mais il y en a quand même certaines vieux, vieilles dans les hauts, qui, les anciens, par leur croyance, leur tradition, leur foi en ça, et la palorgue. Donc, nous avons eu la chance qu'elle avait encore toutes ces personnes-là, et aussi dans les cirques, des personnes qu'elle a gardé cette tradition et qu'elle a pu transmettre. Et voilà pourquoi l'AMG, la FAI, peut-être réduire nos connaissances, réduire nos activités autour de ça.
Est-ce que vous transmettez votre savoir-faire pour perpétuer la tradition ? Si oui, à qui en général ? Quel type de personne ?
Des bribes de transmission, on nous fait ça tous les jours à travers sur les marchés, nous fait ça, nous on a des recettes aussi quand nous rencontrons des personnes. C'est toujours dans des occasions inattendues que des transmissions se fassent. Ça se fait tous les jours. Ça se fait aussi avec les écoles. Hier encore à Saint-Benoît, l'autre jour du côté de Saint-Pierre, on a toujours des demandes des écoles, on a toujours des demandes d'établissements qu'il a besoin de voir à nous, d'entendre à nous pendant 2-3 heures de temps pour pouvoir faire comprendre à ces personnes-là, ces jeunes, à ces adultes-là que nous n'en avons une tradition à La Réunion, nous n'en avons une mémoire, nous n'en avons une histoire à travers ça qu'il ne faut pas nous larguer. Mais je pense que dans les générations à venir, on aura bon peu plus de monde que va aller vers ça parce qu'on aura un besoin. Et nous l'avons vu là, l'expérience en 100 ans, 150 ans peut-être, avec une façon de soigner qui mène à nous, ou ça y mène à nous aujourd'hui. Donc, de monde n'est pas si dupe que ça, de monde n'est pas si ignorant que ça. Petit à petit, on en a vraiment un besoin, on a vraiment une croyance, une foi là-dedans et que ça a été fait avant nous, c'est fait pendant nous les là et ça se fera après nous. Mais je crois que nous les dans un tournant aujourd'hui où c'est que la transmission est en pleine évolution aussi pour pouvoir passer au maximum de connaissances à travers tous les moyens possibles. Pour que de monde n'y soigne les autres, ça va vers plus de naturel, que ce soit pour manger, que ce soit pour soigner.
En effet, il y a de plus en plus un appel à la nature dans la tête des gens. Et que pensez-vous du futur des plantes médicinales ?
La génération qui se réveille, là, c'est une génération nature, elle a besoin de ça. On en a assez de chimiques, on a assez d'artifices, on a assez de virtuels. Donc c'est une génération qui va aller vers des choses des plus naturelles et se partager le monde de la vie, la santé à travers la nature. Déjà, on le voit dans des pays qui... Les médecins qui prescrivent peut-être à mieux respirer ou respirer correctement, mieux respirer dans les forêts, respirer dans la nature. C'est déjà un grand pas pour aller vers plus de nature pour demain, pour ceux qui viennent après nous.
Sur l'île, la médecine conventionnelle doit cohabiter avec la médecine traditionnelle. Mais cette dernière est tellement présente qu'elle a poussé des professeurs à ouvrir le premier diplôme universitaire d'ethnomédecine en France. L'objectif, que les professionnels de santé cernent mieux les pratiques de leurs patients. On fait le point avec François Taglioni, professeur et directeur de ce diplôme universitaire. D'où vous êtes venu l'idée d'ouvrir ce cursus universitaire à La Réunion ?
Un diplôme universitaire qui se déroule sur 2 années, qui a été créé en 2013 par Laurence Fourchette, qui est professeure à l'INELCO à Paris, une collègue qui à l'époque était enseignante-chercheure à La Réunion. En fait, j'ai repris, suite à son départ, j'ai repris cette formation, dans laquelle d'ailleurs elle intervient toujours.
Vous m'avez dit en fait que ce cursus, c'est le seul au niveau mondial, carrément.
Il est même unique dans le monde francophone, c'est le seul à ma connaissance dans tous les mondes francophones à l'échelle mondiale. Le but de cette formation est vraiment de donner aux participants dans ces 2 ans une meilleure connaissance, une meilleure compréhension d'un contexte, si vous voulez, en l'occurrence réunionnais, mais au-delà, puisqu'on donne des exemples en Afrique australe, dans le sud-ouest australien notamment, de parcours de santé qui soient autres que les parcours de santé habituels que l'on connaît, on va dire, en médecine allopathique. En langue française, le seul, oui, de ce point de vue-là, il y a d'ailleurs des gens qui viennent à La Réunion pour suivre ce cursus. Hein, on a vraiment trouvé notre public, si je puis dire, et on a un petit rayonnement. Hein, donc il y a des gens qui viennent s'installer pendant 1 ou 2 pour pouvoir faire une formation. Donc aujourd'hui, ça a évolué un petit peu avec la diffusion beaucoup plus large des technologies en distanciel. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, jusqu'à une époque très récente, il y avait des gens qui faisaient l'effort de venir pour pouvoir se former à cette biomédecine.
Au niveau des étudiants, quel est leur profil pour entrer dans ce cursus universitaire ?
Ce sont plutôt des gens qui sont déjà soit médecins, soit paramédicaux, infirmiers, psychologues, bref, tout ce qui est paramédical, et également anthropologues, hein, puisque l'ethnomédecine fait appel à l'anthropologie.
Vos étudiants font-ils des stages de découverte sur le terrain, par exemple avec des tisaneurs ?
Oui, alors effectivement, il y a des stages avec notamment monsieur Laverne. Ils vont sur le terrain, pas forcément les tisaneurs, hein, mais ils vont observer, ils vont faire un herbier, ce qu'on appelle un herbier, et ils vont observer sur le terrain, avec Claude Marodon également, les plantes, comprendre comment on les cultive, comment on extrait les substances chimiques qui sont justement à effet thérapeutique. Donc oui, on ne peut pas véritablement parler de stage, mais plutôt d'immersion. Il n'y a pas que de la théorie, il y a aussi un ancrage très concret sur le terrain.
Au niveau de la médecine traditionnelle, que pensez-vous ? Est-ce qu'elle peut être complémentaire avec la médecine conventionnelle ?
C'est complètement complémentaire. Il ne faut pas espérer, si vous voulez, avoir une médecine qui pourrait tout résoudre et une autre qui serait, au contraire, là, simplement pour du confort. Donc, je pense que chaque médecine a des spécificités, peut avoir évidemment à son efficacité. Et c'est vraiment dans cette idée de syncrétisme pratiquement thérapeutique, hein, c'est en mixant les approches thérapeutiques, on pourra sans doute améliorer encore l'offre de soins un peu partout, d'ailleurs dans tous les pays du monde. Bien évidemment, c'est très complémentaire et ça doit le rester. Hein. Il ne s'agit pas d'imposer une médecine au détriment d'une autre. Simplement, il faut savoir utiliser ces médecines pour ce qu'elles sont et en tirer le meilleur parti possible pour créer vraiment des synergies pour le bien-être, une fois de plus, des gens qui en ont besoin.
Est-ce qu'il peut y avoir des dangers en associant ces 2 types de médecine ?
A priori non, puisque ce sont des médecines qui sont chacune... Enfin, vous voyez, c'est pas non plus aussi rigide que ça, il n'y a pas une compartimentation absolue entre les approches médicales. Il n'y a pas de danger à partir du moment où chacune de ces médecines sont bien conduites, sont pratiquées par des gens qui ont été bien formés, qui connaissent évidemment les règles de ces médecines, qui en connaissent les limites, qui agissent de façon professionnelle. À partir de là, il n'y a pas de danger plus particulier dans une médecine dite traditionnelle que dans une médecine dite moderne.
Comment voyez-vous le futur des plantes médicinales ?
Quelque chose qui a toujours vraiment aidé les humains à surmonter la douleur et la maladie à travers l'histoire. Et aujourd'hui, eh bien, on voit un retour en force de ces plantes médicinales. On estime que 2/3 des espèces végétales du monde sont potentiellement actives d'un point de vue médicinal, hein, les 2/3. Donc, c'est-à-dire que 2 plantes sur 3 ont des vertus thérapeutiques. Et évidemment, il faut continuer à chercher, à creuser, à valoriser aussi ce potentiel thérapeutique. Mais à n'en pas douter, dans les années à venir, dans les décennies à venir, il y aura de plus en plus d'utilisation de ces plantes. Les laboratoires, d'ailleurs, pharmaceutiques le savent bien et qui sont lancés dans cette course un petit peu à la phytothérapie, parce que il y a non seulement un potentiel thérapeutique, et puis il y a aussi des avantages à la médecine basée sur ces plantes médicinales, avec parfois moins d'effets secondaires, d'être moins de, si vous voulez, moins de risques. Vous parliez tout à l'heure de la notion de risque pour la santé par rapport à des produits chimiques. Donc oui, il y a un avenir absolument certain pour les plantes médicinales, pour l'ensemble de notre humanité.
Quelle radio ? En fait, c'est une radio.
C'est une radio sur Internet.
Ouais. En fait, j'ai un peu peur parce que j'ai peur de ne pas avoir enregistré.
Comment ça s'appelle, le chantier ?
Point radio.
Point radio.
Le chantier tout collé.
Ok.
Et point radio.